Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC? Eh bien, nous en parlons dans ce nouveau numéro avec nos différents invités. Professeur Jean-Claude Wanganga, expert en sciences et technologies des aliments. Docteur Gabriel Kombozi, chargé des missions de la Société des commercialisations de produits agro-pastoraux et halieutiques, le marché international de Kinshasa. Mais aussi Sam Kalambay, consultant en business development, stratégie et coach en entrepreneuriat. Voilà le panel pour les invités de ce nouveau numéro du magazine Okapi Service. Merci à tous d'avoir réagi. Et pour ceux qui veulent déjà réagir, n'hésitez pas, écrivez à l'adresse service@radiokapi.net. Vous pouvez aussi poster vos réactions sur la page Facebook Okapi Service. Justin Siala est à la mise en onde de ce numéro, coordonné et réalisé par Tati Mapoukou. À la présentation, c'est Marcel Ngomombala, bienvenue à toutes et à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Okapi Service, votre magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC avec ses vastes terres fertiles et ses abondantes ressources halieutiques. La RDC a tous les atouts pour devenir un grenier agricole important en Afrique. Cependant, la production agro-pastorale telle que pratiquée sur toute l'étendue du territoire national est souvent insuffisante pour satisfaire à la demande de grandes villes. Autre constat, les quelques fermiers qui réussissent à produire les denrées agroalimentaires de qualité peinent à trouver des débouchés pour écouler leurs produits à cause des aliments importés vendus à bas prix dans les différents marchés de Kinshasa et d'ailleurs. Alors, comment donc promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC? Je le disais, nous avons un panel d'invités pour en parler. Nous allons commencer avec le premier invité qui est déjà en ligne, Sam Kalambay. Il est consultant en business development, stratégiste et coach en entrepreneuriat. Sam Kalambay, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour monsieur. Merci d'avoir
répondu à notre invitation pour aborder cette question sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC. Vous le savez, la RDC a tous les atouts pour devenir un grenier agricole important en Afrique. Cependant, il se pose vraiment un sérieux problème pour ce qui est de l'entrepreneuriat agricole en RDC. Comment pensez-vous qu'il est possible de promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC?
Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de participer à ces sujets intéressants et j'espère qu'on va pas se comporter comme des professeurs pour donner des leçons mais traiter le problème tel qu'il se présente. Je pense qu'il faut avoir touché à trois problématiques. Celle premièrement de l'État congolais, deuxièmement de l'agriculteur et troisièmement du consommateur. Donc il y a des problèmes à tous ces trois niveaux. Lorsque ces problèmes sont résolus, je pense que ce secteur peut prendre de l'envol. Donc, si nous commençons par l'État congolais, il y a des mesures à prendre tant pour protéger les agriculteurs locaux, avec, par exemple, une discrimination positive, dans le sens où l'État congolais décide d'instaurer ce qu'on appelle la souveraineté agricole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas importer tout, on ne peut pas importer les tomates, on ne peut pas importer les oignons, on ne peut pas importer tout ce qu'on peut trouver localement, et cela va permettre à ce que les agriculteurs locaux puissent avoir le monopole dans certains produits. Il y a plusieurs autres mesures qui peuvent être prises, telles que les allègements fiscaux pendant un certain temps, pour permettre aux agriculteurs, par exemple dans cette période post-Covid ou avec la Covid-19, de savoir comment trouver des débouchés et aussi connaître la croissance dans la distribution. Bon, c'est parmi quelques solutions qu'on peut mettre en place. Il y en a plein, mais au niveau de l'agriculteur lui-même, de l'entrepreneur agricole, il y a aussi un problème de professionnalisme. Nous sommes dans un état où la plupart de ceux qui font l'agriculture n'ont pas nécessairement une connaissance. Ils sont peut-être pas passés dans des formations. Ils les font par héritage. Alors, c'est ce genre de personnes, ce ne sont pas des gens à qui on peut fournir des matériels de haute technologie. Parce que déjà, quand vous fournissez à quelqu'un des matériels de la dernière technologie, alors qu'il n'a pas été formé, après une année, vous allez retrouver que ces engins connaissent des pannes, ils sont abandonnés, et ça affecte la production et la croissance. Donc, il faut aussi penser à importer des matériels qui sont adaptés à la connaissance et à la compétence de nos agriculteurs locaux pour permettre à ce que, aussi au climat, donc il y a une question d'environnement, il y a une question climatique, il y a des engins qui sont adaptés à un certain climat en Russie, mais qui ne sont pas adaptés au climat congolais. Donc il y a plusieurs problématiques qu'il faut voir, mais au niveau aussi du consommateur, lorsque un Congolais, par exemple, entre dans une alimentation, tant que l'emballage est beau, tant que l'emballage attire ses yeux, pour lui, c'est bon à consommer.
Oui.
C'est-à-dire tout ce qui est bio, il se pose pas la question, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est bien pour ma santé, est-ce qu'on n'a pas, ce sont pas des OGM, est-ce qu'il n'y a pas un risque, il n'a même pas le temps de lire, mais tant que c'est bien présenté, tant que c'est beau, il achète, il fait confiance à ce qui est importé, plutôt que à toutes les productions locales. Donc là aussi, il y a un problème où nos entrepreneurs agricoles locaux doivent s'adapter.
Oui.
Il est possible de bien emballer nos pondous, il est possible de bien emballer tout ce que nous produisons ici localement pour satisfaire et concrètement tous ceux qui vont dans les supermarchés tenus par les étrangers et acheter le produit local. Donc moi, je pense qu'il faut, de manière holistique, toucher à la problématique au niveau, en amont, au niveau de l'État, au niveau de l'entrepreneur, mais aussi au niveau du consommateur.
Oui, voilà Sam, si je peux vous interrompre à ce niveau, parce que vous avez parlé de l'État congolais, vous avez parlé de l'agriculteur lui-même qui doit être formé, également du consommateur par rapport aux produits qui lui sont proposés. Alors, je me rappelle à une certaine époque, il y avait tout de même ici dans le pays une banque de crédit agricole où il y a de personnes qui étaient intéressées dans ces domaines qui ont pu avoir des crédits, mais on s'est rendu compte après que cela n'a pas marché.
Oui, mais tout est question de procédure, tout est question de programme. Vous ne pouvez pas parler de l'envol d'un État par l'agriculture aussi longtemps que cela n'est pas coulé sur un programme qui est suivi, qui est évalué. C'est bien bon d'ouvrir une banque agricole, c'est bien bon que les gens viennent prendre de prêts, mais attends, est-ce que la distribution est assurée? Est-ce qu'on a un réseau de distribution efficace qui permet à ce que ces produits puissent être acheminés et consommés? Est-ce qu'on a des mécanismes qui permettent d'évaluer exactement quel est le taux de compétition, de concurrence entre le produit qui sont importés et comment faire pour le relever? Donc il y a un travail qui, comme je le dis, qui doit se faire en amont et en aval, c'est-à-dire mettre le moyen pour permettre aux entrepreneurs d'avoir accès au financement, aux capitaux, mais aussi mettre des stratégies, des canaux par lesquels cet argent ne sera pas juste jeté dans l'eau. Donc, il n'est pas trop tard. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Ça va marcher, mais il faut pas refaire les mêmes erreurs, repartir par les mêmes erreurs. Mais aussi, il faut comprendre que avant l'indépendance et même pendant la colonisation, notre pays n'avait pas que les richesses les minéraux comme richesse. Les gens pouvaient importer les produits agricoles, ça sortait de notre pays pour aller remplir l'Europe, remplir d'autres nations. Donc si nous revenons à ce schéma, nous allons voir que le Congo, c'est le Congo du cacao, le Congo, c'est le Congo de la banane, le Congo, c'est le Congo de tout ce qu'on a comme richesse agricole qu'on peut aujourd'hui exporter, un peu comme la Côte d'Ivoire, un peu comme d'autres pays tels que le Kenya. Donc, si nous rentrons dans ces schémas pré-indépendance et post-indépendance, je pense que nous pouvons atteindre un bon rendement. Donc, ce n'est pas impossible, ça va marcher, mais il faut des mécanismes, des programmes bien structurés pour accompagner des banques agricoles.
Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons aujourd'hui des comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC. Nous avons déjà notre premier invité avec qui vous avez suivi le différents axes sur lesquels il a insisté, notamment pour promouvoir cet entrepreneuriat agricole en RDC au niveau de l'État congolais, au niveau des agriculteurs même qu'il faudra former, mais également au niveau des consommateurs par rapport aux produits qui leur sont proposés. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne, Héritier Waminga qui nous appelle de Kisangani et Bernard Malumba qui est à Kananga. Si vous êtes intéressé, vous voulez participer, vous voulez faire part de vos préoccupations, n'hésitez pas, écrivez-nous à service@radiocapi.net ou alors vous pouvez également poster vos réactions sur la page Facebook au Capi Service.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Okapi. Héritier Waminga, vous nous appelez de Kisangani. Bonjour Héritier.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors, quelle est votre question par rapport à ces sujets sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC?
Voilà, je voudrais commencer d'abord par l'analyse. Quand on parle de l'entrepreneuriat agricole, je vois les activités agricoles. Je suis enseignant de l'économie politique au complexe scolaire Mukado, dans le complexe scolaire de l'éducation à Kisangani. J'enseigne les enfants. L'homme est le premier facteur de la production. Mais l'homme congolais n'a pas la conscience pour accroître sa production. Comment? Je ne sais pas pourquoi nous avons la forêt équatoriale. Nous ne voulons pas travailler. Il faut attendre le voisin venir travailler à notre place. J'ai donné l'exemple. Voyez, nous avons les kirdas que nous importons pendant que nous avons la forêt équatoriale chez nous. Nous ne voulons pas travailler. Mais l'État devrait faire une loi pour protéger, soit pour faire améliorer le secteur agricole, mais aussi l'homme congolais doit être conscient afin de bien travailler et prendre la conscience de faire avancer ce pays. La Chine aujourd'hui a émergé, c'est parce que la Chine a exploité le sol. Mais nous, nous voulons toujours être au bureau. Le Congolais aime le bureau, les Congolais n'aiment pas l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle j'ai dit, il est nécessaire que le Congolais soit conscient de travailler. Revenons au bon sens comme l'époque de Mobutu. Mobutu avait lancé la politique « Retronçons nos manches », c'est-à-dire « Retournons sur le sol afin de travailler ». Pourquoi? Parce que le sol a été béni chez nous ici. Tout ce que nous devons faire, le sol va pousser. Il y a des gens qui font les champs, mais aussi ces gens-là. Est-ce qu'il y a des moyens de communication? Le route est pour faire amener la production, à partir de la production locale, dans des villes. C'est ça un problème chez nous ici. Les autorités doivent travailler dans ce sens pour aider les gens qui travaillent, qu'ils puissent orienter ce qu'ils sont en train de produire. Par exemple, du riz. Il faut importer du riz pendant que l'Équateur nous produit du riz. Je suis également assistant à l'ISP Opala. À Opala, là, vous allez trouver qu'il y a du riz abondamment. Mais il n'y a pas de route pour amener ça au centre-ville de Kisangani. Voyez un peu les difficultés que nous trouvons. Je demande alors à l'invité, est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme de mécanismes qu'on peut prendre, des mécanismes à mettre sur pied pour faire croître la production agricole. Quelle politique utiliser pour arriver au bon port? Voilà ma question.
Merci Héritier Waminga d'avoir appelé de Kisangani. On se rend à Kananga pour retrouver Bernard Malumba. Bonjour Bernard.
Bon, bonjour chers journalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute Bernard. Quelle est votre question par rapport à ce sujet sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC?
Ok, merci beaucoup pour la question que vous me posez. Pour garantir l'entrepreneuriat agricole en RDC, l'État doit d'abord doter des moyens conséquents pour garantir cet entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent par manque de moyens, peut-être on a la volonté de faire quelque chose, mais il faut malheureusement que l'État ne s'intéresse pas à cela. D'autres gens se découragent. Si aujourd'hui la Chine, bien que mon co-débatteur vient aussi de le souligner, si aujourd'hui la Chine s'est développée, c'est parce qu'elle a commencé d'abord par cultiver. Elle a d'abord Non, 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 cher journaliste. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de pouvoir s'intéresser dans ces secteurs, afin que ces secteurs-ci soient garantis. Parce que ça touche même le secteur qui touche la santé humaine. Si l'homme ne mange pas des aliments vraiment convenables, il n'aura pas un bon santé. C'est pourquoi nous déplorons, c'est pourquoi nous insistons pour que les chefs de l'État puissent prendre ces secteurs en main afin d'aider les Congolais qui grandissent dans la misère. Voilà au moins ma contribution par rapport à ça.
Merci Bernard Malumba d'avoir appelé du Canada. On revient à notre invité Sam Kalamba qui est consultant business development et puis stratégiste et coach en entrepreneuriat. Sans vous avez suivi, il y a nos deux auditeurs héritiers à Wamenga qui est assistant, qui est enseignant dans un institut supérieur de la place. Il est à Kisangani également. Bernard Malumba qui est à Kananga. Les deux reviennent sur le rôle qui doit jouer l'État congolais à travers une vraie politique agricole. Monsieur Sam.
Merci, j'ai bien suivi Monsieur Tsewameng à partir de Kinshasa. J'ai retenu sa question. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour favoriser l'entrepreneuriat? Moi, je pense que c'est une question de responsabilité et cette responsabilité est partagée. Parce que nulle part au monde, nous avons vu l'État s'élever, commencer à distribuer de l'argent. Oui, ça se fait, mais l'entrepreneur est d'abord entrepreneur, quel que soit le domaine. Nous parlons de l'entrepreneuriat agricole, mais c'est d'abord de l'entrepreneuriat. Comme moi, j'aime bien le définir, entreprendre, c'est entrer et prendre. C'est-à-dire, dans un secteur, il y a des ressources, il y a des bénéfices à prendre. Donc, j'entre dans ce secteur, je comprends comment il fonctionne et j'entreprends. Malheureusement, les gens peuvent entreprendre dans l'agriculture parce qu'ils ont peut-être échoué dans l'automobile. C'est par défaut que, des fois, on fait le choix d'aller dans l'agriculture parce qu'on a échoué dans un autre domaine. Donc, on y va, on se dit, bon, j'y vais. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, j'aurais essayé. Et lorsqu'on aura échoué, parce qu'on n'a pas suivi la formation, on met tout sur l'État congolais. Ce qui n'est pas correct. Donc, il y a une question de responsabilité. Maintenant, je pense avec la nouvelle dynamique que nous voyons avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les différentes structures qui sont mises en place pour favoriser l'afflux de capitaux, parce qu'il faut des capitaux. Il faut que le capitaux soit disponible afin de le redistribuer dans différents secteurs. Et je pense que vous avez suivi, le chef de l'État a insisté pour dire que l'agriculture doit être le socle même de notre développement, parce qu'on ne doit pas compter que sur le code minier ou encore le secteur minier, mais voir quelles sont les richesses, le futur millionnaire doit venir de l'agriculture. Donc, je disais, il y a des mesures à prendre en amont, notamment, je parlerai du domaine foncier. Il faudra voir comment distribuer des terres gratuitement aux agriculteurs. Et il faut que ces agriculteurs soient disponibles. C'est manifeste l'intérêt d'entreprendre dans ces secteurs avec des perspectives et des projections réalistes, avec des projets bancables. Okay? Il ne faut pas seulement dire que l'État congolais ne fait rien alors que vous ne savez même pas où vous allez. Donc, au niveau foncier, il faudra que l'État congolais puisse distribuer des terres. Il faudra qu'il y ait des zones agricoles où on choisit des agriculteurs à qui on donne ces terres pour dire dans 2 ans, dans 5 ans, nous voulons voir la croissance dans tel secteur, mais aussi au niveau de fiscalité, au niveau de la distribution, il faudra qu'il y ait de prêts pour des engins automobiles pour évacuer ces produits. Maintenant, j'ai une question que je me pose, je me dis, oui. Il y a quelque temps pour aller au Congo central, aller acheter du foufou, le manioc, le sac de foufou coûtait aux alentours de $40, si je ne me trompe pas, la route était mauvaise. Donc, on pouvait prendre 2 semaines pour arriver au Congo central. Mais aujourd'hui, en une journée, on pouvait faire un aller-retour au Congo central. Qu'est-ce qui fait que le même sac n'a pas baissé même de 50%? Le prix est pratiquement le même. Donc, comme je le dis, il y a une question...
Est-ce que la production restait la même?
Bien sûr, la production n'a pas changé. Mais le problème, c'est la mentalité qui a changé. C'est la culture qui a changé. Regardez dans tous les takeaways. qui sont disséminés dans la ville de Kinshasa. Donc tous les takeaways, lorsque vous allez, on va vous présenter ce qu'on appelle ici cuisse de poulet, on va vous présenter des saucisses, on va vous présenter des frites, il n'y a pas de légumes. On vous propose pas de légumes. On vous pose même pas de questions. Voulez-vous un peu de légumes? Voulez-vous un peu de concombres? Voulez-vous un peu? Et lorsqu'on vous donne ces concombres, c'est vraiment petit. Vous avez l'impression que c'est une denrée rare. Parce que c'est une question des cultures. L'agriculture doit commencer à la maison. Je me rappelle tous ceux qui entreprennent aujourd'hui, tous les grands fermiers aujourd'hui de la RDC. Remarquez bien, ce sont des gens de l'ancienne école. Ce sont des gens qui ont étudié à l'internat, ce sont des gens qui avaient des parents qui avaient des potagers derrière la maison. Que ce soit à Kolwezi, à Lubumbashi, même ici à Kinshasa, il y avait des potagers, les parents faisaient l'agriculture avec les enfants. L'agriculture, c'est aussi un domaine d'héritage. Lorsque vous parlez de la Chine, c'est une question de génération. C'est toute une génération que Mao a eu à former, à inculquer la notion de la terre.
Et puis pour la Chine, c'était pas un slogan creux. C'est on a été sérieux, on a essayé de mettre tout ce qu'il avait comme programme en œuvre à une certaine époque. Ici, on a parlé de l'agriculture priorité. Les différents gouvernements qui passent reviennent sur l'agriculture qu'il faut absolument booster. Mais en réalité, rien ne se fait sur le terrain.
Absolument. Donc, il faut que le programme, le slogan, se suive de mesures d'encadrement. Et parmi les mesures d'encadrement, comme je le dis, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive, interdire l'entrée de certains produits pour favoriser le produit local, comme ça s'est fait au Kenya. Dès que vous arrivez à l'aéroport, il y a des pancartes qui vous disent « consommer local content », »,« consommer d'abord ». C'est aussi le patriotisme. Pour être un vrai patriote, tu dois faire le choix entre la tomate qui vient d'un pays étranger et la tomate qui est produite en RDC. C'est ça aussi le patriotisme. Donc il y a cette responsabilité au niveau de l'État de prendre des mesures sur le plan foncier, de distribuer des terres, de faire en sorte que les terres soient facilement acquises, de prendre des mesures au niveau de disponibiliser les fonds pour permettre aux entrepreneurs d'accéder à ces fonds et d'entreprendre, le réseau de distribution, mais aussi, comme je le dis, nous, Congolais, comment nous nous comportons face à une banane qui vient de l'Angola et une banane qui vient du Congo central.
Sam Kalambaye, on vous garde encore en ligne. Le temps pour nous de recueillir les réactions de deux auditeurs qui nous appellent. D'abord Christian, qui la ligne, j'espère, ça s'est amélioré. Christian, vous êtes à Kananga. Christian, c'est bon, vous êtes en ligne? Il y a encore un petit toujours des soucis avec la ligne de Christian depuis Kananga, toujours à Kananga. Cette fois-ci, on va retrouver Albert Kasonga. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste. Bonjour à tous nos auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Albert Kasonga.
Oui, à mon avis, je trouve ça le problème de la négligence. Certaines personnes, lorsqu'ils font des études universitaires, ils commencent par de considérer l'agriculture, ne se donne pas. La jeunesse actuelle ne se donne pas à l'agriculture. Ils le considèrent ça. Ils pensent peut-être que les cultivateurs sont devenus des personnes de moindre valeur. Actuellement, certains villageois du territoire de Dibala qui nous apportaient quelques cultures ouvrières comme des tomates, comme des patates douces, actuellement, ils ont laissé ça. Ils commencent par nous apporter les noyaux qui servent à la fabrication des savons. Alors, vous voyez que la population commence à se poser trop de questions à travers ça.
Ah, voilà, ça, c'est la réaction de Albert depuis Kasonga. Albert, alors, vous avez une question à poser à notre invité Sam Kalambaye?
Oui, j'ai une petite question qui est la suivante. Pourquoi l'État congolais ne s'implique pas à l'agriculture? Pourquoi l'État congolais néglige l'agriculture en République démocratique du Congo?
Voilà, merci Albert d'avoir appelé de Kananga. Sam Kalambaye, vous avez la parole.
Par rapport à cette question, je ne suis pas membre du gouvernement, mais je suis en train de suivre progressivement tout ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'Agriculture et au niveau de toutes les déclarations ainsi que les mises en place qui sont en fait par la présidence de la République. Je pense qu'il y a une dynamique qui est en train d'aller dans ce sens-là. Récemment, je suis vu que l'INERA a été doté de plusieurs matériels, de plusieurs lots d'engins, et je pense qu'il y a une dynamique qui est en train d'évoluer dans ce sens-là, au niveau même du Kassai, et j'ai vu le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, qui a inauguré la brigade agricole. Ils ont même produit, ils ont fait la première récolte de tout ce qui a été produit. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui est mise en place. Peut-être que c'est une question de temps, il faudra patienter peut-être une année ou deux ans pour voir exactement est-ce que tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été mis en place va porter ses fruits. Mais je reviens encore sur une chose qui est capitale, c'est le snobisme. Okay, il faudra que nous puissions connaître d'abord qui sont les entrepreneurs qui se sont enrichis rien que par l'agriculture. Il faudra que nous puissions les identifier, il faudra que nous puissions les célébrer, mais aussi qu'ils fassent partie des invités. Parce que quelqu'un qui a réussi dans ces domaines, dans ces secteurs, et qui vient parler, je pense qu'il aura un speech qui va convaincre plusieurs jeunes à quitter, comme je le dis, le snobisme pour se dire « je peux aussi aller faire la culture, par exemple, de piment, la culture de tomates, et me faire de l'argent. » Aujourd'hui, par exemple, je vous dis qu'il y a le jus Jambo. Je ne sais pas si vous connaissez le jus Jambo. C'est un produit local que tu peux retrouver dans tous les restaurants, même tenus par les expatriés. Mais est-ce que, comme je le dis encore, est-ce que nous, Congolais, nous savons qu'il y a un frère à nous qui produit les jus avec nos fruits et que ces jus est 100% naturel? C'est une question de communication, c'est une question de célébration. Donc là, c'est toute une culture de patriotisme qui doit aller aussi dans les médias locaux. Les médias doivent faire de bons choix. De dire aujourd'hui, sur 80% de la com ou de la publicité sur le produit de consommation de masse, il faudra que nous puissions privilégier les Congolais. Donc j'ai découvert ces produits, je les consomme, partout où je passe, c'est les jus que moi je consomme. Les jus étrangers, je ne les prends pas. Je dis, donnez-moi les jus Jambo parce que je me sens bien. Je sens que je suis congolais à 100% lorsque je consomme ces jus-là. Donc c'est une question, comme je le dis, d'héritage culturel. C'est une question d'éducation et c'est une question de volonté politique.
Donc vous pensez qu'il est bon d'encourager les Congolais à consommer congolais, c'est bien ça?
Mais c'est le premier marché. Regardez comment les autres, excusez-moi de citer les noms, les Libanais, les Indiens. Vous allez voir que dans leur restaurant, lorsqu'ils ouvrent le restaurant, qui sont les premiers clients? Ce ne sont pas les Congolais. C'est d'abord leur communauté. Donc c'est-à-dire que lorsqu'un Congolais produit, automatiquement, naturellement, 80% des clients doivent être des Congolais. Essentiellement. Ils doivent le faire, non pas parce que le produit est nécessairement à 1000% bon, non, mais parce que c'est d'abord un Congolais. Ce que j'achète chez le Congolais, l'argent reste au Congo. Mais ce que je paye chez l'expatrié, l'argent va à l'étranger. Ils construisent à l'étranger. Ici, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de bâtiments, ils ne font que louer. Mais tout ce qu'ils font, ils le font chez eux avec l'argent que nous allons leur donner avec des produits qu'ils ont importés. Vous prenez un jus qui porte un nom arabe. Tout ce qui est écrit est en arabe. Vous ne savez même pas comprendre qu'est-ce qui est écrit. Mais vous le consommez quand même. Alors que vous avez un produit qui est produit au Congo, on te dit que ça vient de la forêt de mangrove. C'est 100% bio. Tu refuses de prendre ce produit, tu choisis un produit où c'est écrit en arabe. Tu t'es mis en danger.
Voilà, on va accorder la parole à deux autres auditeurs. Hilaire Chimpampa, qui nous appelle de Kananga, décidément. Beaucoup, beaucoup d'auditeurs de Kananga. Toi, Sakidila, à nos auditeurs de Kananga, merci beaucoup. Nous avons également Exaucé Kainga, qui a le Lubumbashi. Hilaire Chimpampa, vous êtes à Kananga. Bonjour, Hilaire.
Chama, bonjour, tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Hilaire. Quelle est votre question ou préoccupation par rapport à ces sujets sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC?
Oui, par rapport à la thématique du jour, j'ai salué quand même les débats de la journée. C'est très important que nous ayons quand même des informations sur ce qui se passe dans le pays. Concernant l'entrepreneuriat agricole, vraiment, nous avons beaucoup de souffrances parce que nous ne sommes pas suffisamment informés concernant l'entrepreneuriat. Quelque part, nous avons quand même remarqué que l'État congolais a délaissé quand même les entrepreneurs agricoles. Si vous remarquez même les budgets alloués à l'agriculture, c'est un budget qui est de 2%. Alors avec les 2%, qu'est-ce que l'État peut faire pour améliorer quand même la production agricole? C'est tout à fait très problématique. Alors nous avons besoin à ce que l'État puisse donner quand même des moyens aux entrepreneurs et que le cours d'entrepreneuriat soit inséré au programme national à partir de la troisième. Parce que nous avons vu ces cours en cinquième. Alors une seule fois par an, ça ne peut pas suffire pour permettre à ce que nous puissions avoir beaucoup de connaissances sur ce que nous appelons l'entrepreneuriat. Alors nous souhaitons à ce que l'État puisse penser aux entrepreneurs pour leur donner quelque chose qui peut suffire.
Merci, Ler Chimpapa, d'avoir appelé du Kananga. Exaucé Kainga, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Exaucé.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Exaucé. Quelle est votre question?
Oui, d'entrée de jeu, bon, je salue d'abord tout le monde qui sont branchés sur la radio Kapi. Premièrement, c'est inacceptable. C'est inacceptable un pays comme la RDC qui échoue de faire l'agriculture et importer même la tomate à la Zambie ici. Regardez un peu la Zambie, la superficie de la Zambie qui n'est pas comparable à la RDC. Mais nous, nous dépendons de la Zambie. Par exemple, ici à Lubumbashi, nous mangeons les produits agricoles qui sont de la Zambie. Par contre, ici à Lubumbashi, il y a beaucoup des agronomes qui chôment. Pourquoi ils ne sont pas considérés comme tels? Par contre, l'agriculture est priorité des priorités, comme l'avait dit le président Kasavubu. Pourquoi? Chaque fois, c'est l'agriculture qui est négligée. En tout cas, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ne peux plus continuer, mais il peut penser à l'agriculture.
Voilà, là c'était Exaucé Kainga qui nous appelait de Lubumbashi, très ému par rapport à ce qui se passe pour ce qui est de l'agriculture en RDC. Sam Kalambay, comment réagissez-vous?
Non, mais je réagis, je comprends la douleur de mon frère, quartier de Lubumbashi. J'aimerais quand même préciser une chose, c'est que les villes frontalières ont beaucoup de choses en commun. Si vous allez dans les villes frontalières, vous allez voir qu'ils ont pratiquement le même nom dans de deux côtés de frontières. Ils partagent pratiquement un peu comme la même culture. Ils mangent même pratiquement la même chose. Donc c'est aussi normal que les deux villes qui partagent la frontière puissent aussi s'interchanger les productions. Ça, il n'y a pas de problème, parce qu'une production qui est faite à Kinshasa, c'est difficile que ça puisse arriver, par exemple, au nord du pays, avec le transport, avec les conditionnements et tout ça. Donc, c'est vraiment pas une grande problématique en termes d'échanges frontaliers pour les provinces et tout ça. Mais par contre, je suis d'accord avec mon frère qui dit que l'État doit mettre un accent particulier, si je ne pense pas prioriser l'agriculture, mais aussi mettre, comme je le dis, les mesures d'accompagnement. Il suffit pas de mettre les capitaux, mais les mesures d'accompagnement comme une politique générationnelle. Il faudrait que ça soit un passage de relais. Nous sommes dans la trentaine révolue. Il faudra que ceux qui sont dans la vingtaine puissent déjà savoir que pour réussir en RDC, il faut produire le maïs. Pour réduire en RDC, il faut produire la tomate. Mais par contre, aujourd'hui, nous, ce que nous savons, pour réussir en RDC, il faut faire la politique. Pour réussir en RDC, il faut ouvrir un bar, un lunch bar ou night club. Pour réussir en RDC, il faut aller à Dubaï, importer des habits, acheter des parfums et puis revendre. Donc ça, c'est une culture. Il faudra maintenant casser cette culture, comme je l'ai dit, en célébrant les entrepreneurs qui ont réussi dans l'agriculture. Et eux doivent savoir transmettre cette réussite, l'expérience qu'ils ont réussie, afin d'avoir des générations et des générations. Lorsque vous allez en Espagne, lorsque vous allez en France, lorsque vous allez en Belgique, partout vous allez voir que c'est une question de génération. Ce sont des vignobles, des vignerons qui ont fait plus de 50 ans, et c'est des générations en générations que ce sont des grandes plantations qui sont restées, ils se sont modernisés, et c'est une culture qui s'est transmise. C'est dans ça que nous devons, nous, aujourd'hui, aller. Il n'y a pas d'autre formule. Il faut prendre ce qui marche ailleurs et le répliquer, mais en tenant compte de notre réalité. Donc aujourd'hui, l'État congolais est là comme un accompagnateur, mais l'État congolais ne va pas tout faire. Il faudra que nous tous, nous puissions nous mettre autour des mesures d'encadrement, mais aussi manifester cette volonté patriotique d'entreprendre et de consommer ce que nous-mêmes nous entreprenons. Donc c'est une réalité qui est une responsabilité qu'on doit partager nous tous, mais j'insiste encore, c'est dommage que l'agriculture puisse avoir un budget moindre parmi tous les secteurs.
Voilà, là c'est encore de choses qui est déplorable, parce qu'on parle de l'agriculture comme un secteur qu'il faut absolument développer, même malheureusement le budget alloué justement à ces secteurs est insignifiant. Alors parlons un peu du secteur privé. Vous êtes consultant en business development, vous êtes stratégiste et coach en entrepreneuriat. Est-ce que dans les secteurs privés aussi c'est possible dans ces secteurs de booster l'agriculture, c'est-à-dire que le privé puisse s'intéresser à l'agriculture plutôt que d'investir dans d'autres secteurs?
Oui, c'est possible parce qu'aujourd'hui il y a de ces entrepreneurs qui ont par exemple trouvé des solutions, parce que localement, comme ça pose problème, il y a de ces entrepreneurs qui viennent, je connais des gens qui viennent de l'Europe, qui achètent des terres au niveau du Congo central, au niveau du plateau des Bateke, ils font des cultures et lorsqu'il y a une récolte, ils les exportent vers l'Europe. Donc la diaspora congolaise ou africaine achète, consomme ses productions à un prix un peu plus élevé, et en tout cas ça marche. Donc je pense que la marge de bénéfice est assez élevée, parce qu'ils ont compris que il y a une certaine nostalgie dans la diaspora pour consommer le produit exotique de la RDC. Du coup, ils ont trouvé un créneau: revenir acheter de terre, faire des plantations et puis les exporter au niveau de la diaspora, et ça marche. Donc si ça marche dans ces sens-là, je pense qu'au niveau local aussi ça peut marcher, mais avec par exemple l'installation des usines de fabrication des jus. Il faut qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'il y en ait plusieurs. Aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple dans une maison de vin, vous allez trouver qu'il y a plusieurs marques, il y a plusieurs sortes de vins qui portent le nom des agriculteurs, des entrepreneurs. Et c'est ce que nous devons avoir aussi au Congo. Nous devons avoir plusieurs marques. Et ces marques-là doivent faire la compétition aux marques importées. Les marques sud-africaines, les marques, je ne sais pas, angolaises. Et pour y arriver, il faut aussi qu'il y ait une corporation des agriculteurs. Moi, en tout cas, je n'en connais pas. Je ne connais pas aujourd'hui une association sérieuse des agriculteurs congolais qui passent à la télé, qui font des forums, qui font des formations, qui font des conférences, je n'en connais pas. Donc il faut qu'il y ait déjà une certaine organisation, même si aujourd'hui la Banque mondiale, comme d'habitude, décide d'injecter 100 millions de dollars pour le secteur agricole, le secteur privé. Mais ils sont où? Ils sont regroupés comment? Ils ont quelle formation? Ils fonctionnent comment? Comment on fait pour les identifier? Donc je pense qu'il faut aussi les identifier, ils doivent fédérer leurs forces, leurs expériences, avoir une corporation, faire de lobbying sérieux pour qu'ils soient premièrement respectés, considérés et travailler comme un levier de développement pour booster le secteur privé. Donc comme je le dis, si ça marche au niveau de la diaspora, avec ceux qui viennent pour entreprendre et exporter nos produits locaux à l'étranger, je pense que ça peut marcher aussi au niveau local, avec toutes les mesures d'encadrement qui sont mises en place par l'État congolais.
On va se rendre à Luisa pour retrouver Tito Chiala qui nous appelle de Luisa. Tito, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les éditeurs.
On vous écoute, Tito. Votre question par rapport à ce sujet sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC.
Merci beaucoup. Pour arriver à promouvoir l'entrepreneuriat au niveau de la RDC, il y a notre contribution par rapport à cela. La première des choses, moi je pense qu'il faudrait que les cours d'entrepreneuriat soient à tous les niveaux, donc soit mis au programme, en commençant par l'école primaire, pour donner le goût à cette éducation-là. Parce que vous allez constater que les autres qui n'ont pas ces cours-là, qui s'intéressent peu, et on considère peut-être que ceux qui font l'agriculture sont des sous-hommes, donc ce sont des options à négliger. Donc, la première proposition, c'est de mettre au programme, donc nous désirons à mettre au programme ces cours-là. Deuxièmement, il faudrait que l'État prenne l'initiative de faire en sorte que ceux qui s'intéressent à l'agriculture aient des crédits, aient des aides, soient encouragés par rapport à ça. Troisièmement, je pense que pour arriver à promouvoir cet entrepreneuriat, il faudrait que l'État prenne des responsabilités pour aménager des routes. Parce que ici, par exemple, à Lisa, il y a des produits agricoles qui sont en train de pourrir. Pour amener, par exemple, à Kananga, pour amener à Mbujimayi, il n'y a pas de route de défaite agricole. Donc, pour que les petits arrivent ici, ça pose un peu de soucis et des problèmes. Alors, c'est par rapport à ça que je voulais donner comme contribution. Merci.
Merci d'avoir appelé de Luisa. On va retrouver notre auditeur qui est en ligne. C'est Benjamin qui est à Kisangani. Benjamin, bonjour.
Bonjour, mon cher journaliste.
On vous écoute. Votre question, Benjamin.
En fait, ma préoccupation, en fait, n'est rien d'autre que la thématique du jour a été très merveilleuse à propos de l'entrepreneuriat. Nous le savons que les papas nous ont fait nourrir et scolariser à travers l'entrepreneuriat, tellement que la plupart de la population la population congolaise n'a pas les boulots comme celle engagée par l'État. C'est la raison pour laquelle nous avions toujours voulu qu'il y ait toujours l'entrepreneuriat. Les gouvernements, ce que je m'avais juste à dire, les gouvernements doivent prendre trois points à main, entre autres la sécurité, les infrastructures, et à cela s'ajoute il faut diminuer la multiplicité des taxes. Comment ça fait-il? Moi, je peux planter mes tomates. Après avoir planté mes tomates, je récolte à peine 3 sacs. Ou soit 4 sacs. Les évacuer, c'est peu difficile pour atteindre les marchés, pour atteindre les marchés de vente. Alors, à cela s'ajoute, sur ce même chemin, il y a les sécurités. Sur ce même chemin, il y a l'impraticabilité des routes de certains agricoles. C'est peu compliqué, cher journaliste.
Voilà, merci Benjamin d'avoir appelé de Kisangani. On revient ici. Vous n'avez pas fini, Benjamin. Allez-y.
Ajouter, s'il vous plaît. Oui. Comment ça fait-il quand vous ouvrez une petite alimentation et il n'y aura même pas l'intervalle de 2 semaines pour recevoir toute une pluie des agents de l'État. Et la multiplicité des taxes, les gouvernements doivent voir comment nous aider à diminuer les taxes. Et pour promouvoir vraiment pour promouvoir l'entrepreneuriat au Congo, il faut aussi tailler, il faut diminuer aussi la multiplicité des taxes parce que c'est là que les affaires se nourrissent, c'est là que les affaires utilisent, c'est là que nous soignons. Il faut vraiment voir comment nous faire toutes ces choses là. Ma recommandation n'est d'autre que le gouvernement nous établisse quoi la paix durable, et que le gouvernement nous fasse quoi que le gouvernement fasse les infrastructures à bonne et difforme pour qu'il y ait les échanges de produits et de part et d'autre. Et à cela s'ajoute que les taxes diminuent, nous les voulons trop trop bien, parce que nous aussi, nous vivons l'entrepreneuriat ici à Kisangani.
Voilà, Benjamin, merci d'avoir appelé de Kisangani. Vous insistez beaucoup par rapport aux taxes. Donc pour vous, il faut que l'État congolais essaie de revoir à la baisse le taxe, notamment pour ce qui est du secteur agricole. Merci d'avoir appelé de Kisangani. On revient ici à Kinshasa. Alors Sam Kalamba, vous avez suivi le deux derniers intervenants qui sont revenus. On revient décidément sur le rôle que doit jouer à l'État congolais, notamment pour ce qui est de d'encourager tous ceux qui sont dans ces secteurs agricoles. Vous avez même parlé de la discrimination positive, mais également d'identifier ceux qui ont pu investir dans ces domaines et puis voir comment les encourager. Vous avez également insisté par rapport à cette culture d'aider les Congolais à en tout cas chercher à consommer à Congolais. Mais il y a également cet auditeur qui nous a appelé de Kisangani, qui est revenu par rapport aux taxes. Pour lui, il faut voir dans quelle mesure également baisser tout ce qu'il y a comme taxes pour ceux qui veulent investir dans les secteurs agricoles. Sam Kalambay.
Absolument, absolument. Il faudra baisser. Il faudra vraiment des mesures. Ça, je peux appeler ça des mesures de développement. Parce que vous ne pouvez pas vouloir aller de l'avant en laissant les choses comme telles, comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il faudra que notre plaquette fiscale puisse correspondre à l'objectif que nous voulons atteindre. Il faudra que nous puissions réduire drastiquement toutes les taxes, les impôts qui sont liés aux entrepreneurs agricoles. Et moi, je pense même qu'il faut aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont des sujets sur lesquels les élus du peuple, parce que tous ceux qui sont en train d'appeler de Lubumbashi, ceux qui appellent du Kasaï, ceux qui appellent de Luiza, ce sont eux qui sont représentés au niveau du Parlement. Ce sont de vrais problèmes qu'il faut traiter au niveau du Parlement avec de lois réalistes sur le secteur agricole. Il faudra que les députés nationaux puissent travailler courageusement pour que le gouvernement, pour que le sommet de l'État puisse accompagner l'agriculture. Je ne sais pas si, même au niveau du Parlement, l'agriculture aussi est parmi les élèves oubliés, encore les secteurs oubliés. Mais voilà que la population est en train de s'exprimer pour dire que nous voulons des changements sur le plan fiscal, nous voulons un accompagnement. Et je pense que au retour même de la session plénière de l'Assemblée nationale, il faudrait que ce soit des sujets pareils qui soient débattus au niveau du Parlement pour des lois et des mesures d'accompagnement. Donc l'État a pleinement sa responsabilité pour avoir un programme, une vision concrète et cohérente pour accompagner les entrepreneurs agricoles. Mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai suivi dans les infos que le coût d'entrepreneuriat à partir de l'année scolaire prochaine, je pense, sera intégré dans la plaquette de l'école primaire. Je demande à nos amis qui ont intervenu, qui ont voulu que ces cours soient intégrés dans l'école primaire, puissent aussi s'informer. Je pense que l'année prochaine, ces cours seront intégrés. C'est parmi les choses que nous avons milité lorsque nous avions des associations de jeunes entrepreneurs à chacun son rythme et d'autres que nous avons fait pour fédérer les forums des jeunes entrepreneurs. Nous avions mis des résolutions. Et parmi les résolutions, nous avions parlé de l'électricité, nous avions parlé de l'entrepreneuriat au niveau du primaire et au niveau de l'université. Parce que moi, je ne dirais pas seulement qu'au niveau du primaire, même au niveau de l'université, parce que le premier à être exposé au problème du chômage, ce sont les étudiants qui terminent. Ils sont désorientés, ils ne savent pas par où commencer, mais si l'entrepreneuriat aussi est enseigné à ces niveaux, je pense qu'on est dans le bon.
Voilà, on va s'arrêter par là avec vous, Sam Kalamba. Nous rappelons que vous êtes consultant en business development, stratégiste et coach en entrepreneuriat. Merci d'avoir été de notre pour aborder ces sujets sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC.
Je vous remercie beaucoup.
Voilà, on va retrouver dans la deuxième partie de ce magazine, juste après les infos, notre invité Dr Gabriel Kombosi, chargé des missions de la société de commercialisation de produits agro-pastoraux et halieutiques, le marché international de Kinshasa.
Bande mignon so balingi kokota lola, mais bazali ko bangaliwa, bakolekile la wapi. Passage obligé. Père Jean-Pierre Bochoko, Abbé Senghor. frère Alain Kabamba. Abbé Robert Pembele.
Lulala lula ki e lutelinga matambo Jean-Marie Amour yon anima ki te fosuke langa gui Na komi ko kanga mananda kolokula nyama nazo Kaka pona ko banga bato batu na baiba poni toka bwani Na lembi be explication ben terdu ya ko pesa na bato Jean-Marie lukulasi
Na ba jono joki bongi Michel la diluya Eko linga la linga eki eduke linga makambo ya dema
Amuro yon andema kite kosuke la nga gulie Na komi ko kanga mananda koloko la nyama na zoe Kaka pona ko banga bato batu na baiba ponini to kabwani
La lembi be explication be interdia ko pesa na bato na batele E na ba jono donki E batu na nga baiba ponini
Christian le Sakwino, top Congo.
Zonga, zonga, Jean-Marie Lukulasi, on motema. Zonga, zonga, Nami Tuni Tuni, Nini Nana Salio Lukulasi.
Abdul Daya Shop,
Nami Leli. Nami tuni tuni yo motema Nami lelie Nami tuni tuni Nini ngana sali yo Lukula si jamari
Konzo mwela la pointure dessus Leda Shenzinga
La plonge n'est pas de Bissoya kokanga ma pepe Tellement confiance De kakina petit moto na libanga
Makila masanga Ninga ina soya monokwe
Na bele la kina Leli moto tayo kakikule la nanga Heureusement kolo Ya welongo linga na dikulu
Alo binanga Mwana tamola kaka na limenyae Enjuru bukende Nambo kamusika Okokute sika boli Na yo kaka e yale
zonga zonga Jean-Marie Lukulasi Bichu Lukulasi zonga zonga
Rami Amisi Bijou de Mpongo Sam de Mombay Onda
Naboya kinanga lika mwango yoloba kinanga la bangate Yoko emenga Jean-Marie Napena motema na longola kidute na loba kipenese na lwe Napesi yo motema na ngai Yo monisi kuyone yo konyo salanga Napesi conscience na nga rezo Yero bela jingani Kena sala keba pomboli webo makabwa masoki la si yo motema Yoko nonzoto na susi Maya miso na nga na bomba kipo na dila kuya nga baboti Ole bisi nga Na sengi yo pardon ya kato sala mizo kwensi mo kene na yo Oba surjwa ba mokite Kope renga motema ba longo la bolingo yo tia kasi na kwaime Na tika la kole la
Jeje kalume alino mifana ya Willy Blanchard
Na boya kinanga li kambwango yolo baki na ngana bangate Kapena motema na longo la kidute na loba kipenese na yue Na pesi yo motema na ngai Yo bonisi koyo nengo kumyo salanga na pesi conscience kanga rezo Kelo bela kinali Kena keba bubuli mweba umaka we maso kila ti yo motema Yo kono nzoto na susi Maya miso nanga na bomba kipo na lela oyanga baboti Yo lelisi na kapo Na sengi yo pardon ya kato sala mizo kwezi mo kene na yo Oba suje ba kokite Kopere nga motema ba longo na bolingo yo ti ya kasi na nga ime Na tika la kote na ye
Jolik Lukulasi
Bolingo
Okapi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Nous avons en ligne le docteur Gabriel Kombosi, chargé des missions de la Société des commercialisations de produits agro-pastoraux et halieutiques, le marché international de Kinshasa. Docteur Gabriel Kombosi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ces sujets sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC. On le sait, avec la RDC a de vastes terres fertiles, d'abondantes ressources halieutiques, mais pourtant le pays a du mal à devenir un véritable grenier agricole en Afrique, hein, simplement parce que la production agricole telle que pratiquée sur toute l'étendue du territoire national est souvent insuffisante pour satisfaire à la demande de grandes villes. Il y a également un autre constat, c'est que les quelques fermiers qui réussissent à produire des denrées agroalimentaires de qualité peinent à trouver des débouchés pour écouler leurs produits à cause des aliments importés vendus à bas prix dans les différents marchés de Kinshasa d'ailleurs. Alors, dites-nous, docteur Gabriel Kombosi, comment on peut promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC?
Bien, merci pour la question. Et d'ailleurs, je vous remercie pour avoir pensé à revenir sur moi, parce que l'autre fois, nous avons parlé de la pisciculture. Aujourd'hui, nous parlons exactement de la grande société de commercialisation de produits agro-pastoraux et halieutiques. Donc, nous sommes maritimes, comme vous le dites. Maritime, c'est le marché international de Kinshasa. Donc, c'est une société du groupe du portefeuille de l'État congolais. Hein, il a ses statuts, ses actes de création et de fonctionnement. Et c'est une société commerciale qui est créée à l'issue du grand projet de Bukangalonzo. Parce que vous avez les parcs agro-industriels qui sont identifiés à Kinshasa, à RDC, devaient faire la même chose comme celui de Bukangalonzo qui est en face de l'autre. Alors, c'est pour prévenir la vente des produits qui proviendraient de tous ces parcs agro-industriels à installer à travers la République, que la société maritime a été créée. Pour un premier mandat, c'est celui-là. C'est-à-dire vendre les produits agricoles, halieutiques et pastoraux qui proviendraient de parcs agro-industriels à travers la République. Deuxième mandat, la société a comme prérogative de vendre tous les produits de paysannat. C'est là exactement que nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir développer. Alors, les paysannats, c'est les petits éleveurs, les petits producteurs qui sont parsemés à travers la République en province. Alors, la société a été créée justement pour s'occuper un peu de ces paysannats-là. Vous remarquerez que l'histoire nous apprend qu'à la colonisation, en tout cas, les colonisateurs n'avaient pas besoin de créer de grands projets pour pouvoir importer l'huile en Europe, pour pouvoir développer l'agriculture. Les colonisateurs ont pu donner de l'importance à l'entrepreneuriat paysannat, les petits paysans qui pouvaient faire un hectare, deux hectares, sous un contrôle rigoureux et rapproché. Et avec ça, il était capable de nourrir toute la population de la RDC, bien que nous dans les 15 millions d'habitants, ils pouvaient aussi exporter l'excédent. Mais aujourd'hui, il est difficile qu'un paysan se retrouve dans ce qu'il est tenté de faire, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord la production qui stagne. Aussitôt qu'il a produit, il ne sait pas où l'évacuer. Et même s'il évacue, à quel prix il va vendre son produit? C'est ainsi que dans le deuxième mandat de Maritime, nous avons eu comme objectif de pouvoir ramasser tous les produits agricoles qui stagnent en province, les transformer, les mettre en valeur ajoutée, les vendre. Et vous comprendrez que la suite, si jamais on arrive à prendre toute la production aussitôt qu'elle est faite au niveau de la campagne en paysannat, le paysan qui a fait un hectare aujourd'hui, parce qu'il a vendu toute sa production, la prochaine campagne, il serait tenté de produire, de faire une emplavure dans l'Europe, des hectares par exemple. Et là, ça constitue, tenez-vous bien, une émulation au niveau du paysanat, qui peut aussi avoir des rendements meilleurs par la suite.
Mais justement, docteur Gabriel Kombosé, c'est justement cette question qui me vient à l'esprit hein, lorsque je suis en train de vous suivre, surtout parler de vos mandats par rapport à tous ces paysans qui sont dans ce secteur agricole. Mais on a comme l'impression que sur le terrain, rien ne marche vraiment parce que c'est souvent le produit à importer qui inonde le marché à congolais, même ici le marché quinois.
Oui, vous avez raison, parce que dit-on quelque part que le pouvoir a un rêve du vide. Hein? Quand il n'y a rien sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Hein? C'est le premier arrivé qui fait quelque chose. Vous avez raison, parce que moi-même, j'ai été, par exemple, chez Mino Congo, hein, s'informer de comment ils travaillent.
Oui.
Et ils font importer le maïs que nous pouvons produire sur place ici. Vous comprenez?
Oui.
C'est pas une injure. Hein? Alors qu'à côté, je suis de la province orientale. À côté, à Bumba, par exemple, à Bassoko, il y a le maïs qui pourrit. Faute de pouvoir d'évacuation, faute de rachat. Alors, dans notre deuxième mandat, évidemment, nous avons ce mandat-là de racheter les produits des paysannats, les amener autour des grandes agglomérations, les transformer et les mettre en valeur ajoutée pour les vendre. Au même moment, nous aurons résolu deux problèmes. C'est celui d'améliorer le rendement du paysan producteur et puis améliorer aussi la qualité de l'alimentation du paysan consommateur. Donc, disons, des consommateurs autour des grandes agglomérations. Voilà.
Alors, c'est que vous avez... Mais c'est que votre société est en train de faire ça, il faut le dire. C'est déjà bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de nous suivre, qui découvrent qu'il y a cette société de commercialisation de produits agro-pastoraux halieutiques dans les marchés internationaux de Kinshasa. Alors, par rapport à l'état de lieu que vous venez à évoquer, par rapport au constat qui est fait sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider? Parce qu'on parle de comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC, on suppose ou on imagine que ces paysans, c'est entre guillemets des entrepreneurs quand même avec leurs maigres moyens. Et comment les aider à, c'est-à-dire à produire davantage de manière à ce que ils puissent vraiment se retrouver dans ce qu'ils font et par ricochet booster à l'entrepreneuriat agricole.
Je suis content de la question parce que vous savez, le paysan qui travaille dans son milieu. Hein, je venais de dire qu'il a difficile à évacuer son produit. Mais si autour de grandes agglomérations, par exemple, ou même autour de structures viables, par exemple, les confessions religieuses, hein, il y a des coopératives au niveau rural, autour des bassins de production, si ces paysans-là se réunissaient en association des producteurs, si ces paysans-là se réunissaient en coopérative de production, hein, supervisée par les confessions religieuses, que nous avons, hein, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, je crois qu'on aurait produit hein, des structures viables de commercialisation de leurs produits. Donc, moi, je crois qu'il faut partir de l'existant. Hein. Aujourd'hui, là, le paysan ne vit que de la production agricole, halieutique et pastorale. Alors, s'il faut le développer l'agriculture, à mon sens, il faut partir par l'encadrement de ces paysans-là, les regrouper en bassin de production et autour des grandes agglomérations dans le milieu rural, en province, créer de petites unités de production, de transformation. Et je salue aussi les efforts que nous sommes en train de suivre avec le ministre, l'actuel ministre de l'Industrie, son Excellence Paluku, qui vraiment est dans le même élan que nous sommes en train de pouvoir imprégné dans la société. C'est-à-dire que produire, insémer de petites unités, de petites industries de conservation, de transformation des produits dans le milieu rural, autour des producteurs. Et à partir de ça, organiser les rachats, comme nous sommes dans la société maritime internationale, le marché international de Kinshasa, organiser les rachats et les évacuations de ces produits vers le centre de consommation. À ce moment, comme je venais de dire, nous aurons résolu deux problèmes, celui de faible rémunération au niveau des paysans producteurs et donner aussi de la production, améliorer la consommation locale hein, de produits agricoles, pastorales et halieutiques. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons voir que les importations que nous sommes en train de subir peuvent, n'est-ce pas, diminuer progressivement d'elles-mêmes aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui demander à ces importateurs de pouvoir arrêter de les faire pendant qu'on n'a pas une pièce de rechange, une substitution. Vous voyez ? Donc, nous plaidons vraiment, dans cette émission, les décideurs sont en train de nous suivre. Nous plaidons que des structures locales soient installées parce que le marché national de Kinshasa a comme vision de pouvoir s'installer à Kinshasa comme direction générale, mais avec des antennes provinciales. Hein, comme l'a été, vous savez, dans les années 90, hein, la grande société d'un général d'alimentation. Voilà un peu en jalinéaire les schémas que nous pouvons mettre sur place pour pouvoir développer ce secteur-là.
Docteur Gabriel Kombozi, nous avons déjà des auditeurs en ligne. On va leur accorder la parole tout à l'heure. Il y a Paulin Moussoukou qui nous appelle de Béni. Au Nord Kivu, oui. Également Marcel Moulamba qui est à Kananga, au Kassai Central. Mais avant de leur accorder la parole, j'aimerais vous poser cette question de curiosité. Est-ce que on sait qu'il y a eu des éditions de foires agricoles ici à Kinshasa? Est-ce que votre société a eu à exposer le produit à gros pastoraux pour faire découvrir le travail de ces paysans que vous aidez à commercialiser le produit?
Ah, vous posez une très belle question. La société, comme vous avez dit, est créée à l'issue de la du projet agro-pastoral, agro-industriel de Boutangalonzo. Hein, vous savez, le Boutangalonzo a été créé en 2015 et que après la séparation avec les prestataires sud-africains, la société maritime est créée juste après, vers les années 2017. Donc, aujourd'hui, nous n'avons que 3 ans, hein, d'existence et nous sommes entrés en phase d'implantation, de sensibilisation et de montage, hein, montage institutionnel pour ce qui est de cette société-là. Donc nous n'avons sincèrement pas été présents au niveau de la foire, comme vous le dites là, dans les expositions, mais nous avons des fournisseurs, nous avons des privés avec qui nous sommes déjà en contact, tout grâce à Kinshasa, comme en province, pour pouvoir développer cette structure-là.
Voilà, merci à ceux qui viennent de nous joindre sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien, Capi Service. Nous sommes dans cette deuxième partie de ce magazine où nous parlons de comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC. Merci de réagir à l'adresse service@radiocapi.net. Vous pouvez également poster vos réactions sur la page Facebook au Capi Service.
Ngoma ya kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Paulin Moussoukou nous appelle de Béni dans le Nord Kivu. Paulin, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Paulin, quelle est votre question concernant ce sujet sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC?
En fait, pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC, je pense que cela passe par deux situations, et notamment la sécurité. Dès qu'on améliore la sécurité à travers la République, je crois que l'industrie agricole sera un peu promu. Mais aussi, il faut la volonté politique de nos dirigeants, parce que vous imaginez, lorsque vous avez un gouverneur, vous avez un président de la République qui prend l'agriculture pour le cadet de ses soucis, eh bien, ça ne peut pas marcher. Vous voyez l'exemple de M. Laurent Désiré Kabila à l'époque, quand il a pris le pouvoir et il a directement pensé qu'il pouvait relancer cette agriculture-là avec le projet Kanyamakasese. Et vous avez vu des tonnes et des tonnes qu'il a produit à cette époque-là. Et à ce moment-là, le pays pouvait quand même se frotter les mains pour avoir produit des tonnes de maïs. Je pense qu'avec ces deux aspects-là, on peut promouvoir l'agriculture dans ce pays.
Et vous avez une question à notre invité, le docteur Gabriel Kombozi?
une question pour
l'invité. Oui, tout à fait. Oui, vous avez fait part de votre contribution. C'est que vous pensez booster les secteurs agricoles en RDC. Vous avez parlé de sécuriser tous les territoires, tous les pays, également la volonté politique. Mais oui. Une question à notre invité. Vous n'avez pas de question à notre invité, docteur Gabriel Kombosi?
Bon, en fait, je peux lui demander qu'est-ce qu'il pense finalement de cette insécurité qui est en train de gangréner toute la République pour qu'on puisse finalement booster cette agriculture-là. Qu'est-ce qu'il pense pour que on puisse vraiment maîtriser ces poches de résistance?
Voilà, merci Paulin Moussoukou d'avoir appelé de Béni dans le Nord Kivu. Au Kasaï Central, nous avons en ligne Marcel Moulamba depuis la ville de Kananga. Marcel, bonjour.
Bonjour, bonjour à la Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Marcel, votre question.
Oui, ce n'est pas une question comme telle. À mon avis, pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole dans notre pays, il faut d'abord suspendre les aides humanitaires distribuées par différents organismes internationaux. Nous avons constaté que ces organismes viennent dans nos provinces. Quand ils viennent, surtout ceux qui interviennent dans la sécurité alimentaire, ils achètent tout d'abord les maïs localement, les maïs produits localement dans nos marchés. Parfois, si la mesurette était à 2000 francs, mais eux, quand ils viennent, ils vont acheter cette mesurette à 5000 francs, soit à 3500. Et quand ils achètent ça, ils vont descendre dans des villages là où ils ont dirigé leurs enquêtes pour donner les aides aux vulnérables. Vous allez trouver qu'une famille qui a peut-être 6 enfants, après avoir été enquêtée, la famille va bénéficier à peu près 2 sacs de farine, soit 2 sacs, soit 3 sacs de farine. Et cette aide va intervenir durant 3 mois. Et c'est après 3 mois que les humanitaires ou soit les organismes vont quitter. Maintenant, les gens qui restent pendant 3 mois en attendant toujours l'aide ici, ça affaiblit déjà les gens à travailler. Vous allez voir quelqu'un qui ne part pas au champ pour aller cultiver, mais il dit non, j'attends que l'organisme vienne m'aider. Et à la fin du mois, il a une aide. Et quand ces organismes interviennent, directement, ça affaiblit les gens à aller travailler. Tout d'abord, si le gouvernement pouvait prendre la mesure de suspendre d'abord les aides humanitaires, que la population se prenne en charge elle-même, vous allez trouver même au village aujourd'hui une mesurette qui était à 2000 francs au village là où la ville pouvait aller s'enrichir. Mais nous trouvons au village une mesurette qui y a un prix exorbitant plus que même la ville de Kananga. Quand je vous parle par exemple à Timbulu, c'est une ville du Kasaï Central. Vous allez là-bas, une mesurette qui coûte 4000 francs, le même prix que Kananga. Or, nos villages fournissaient beaucoup de vivres dans notre ville. Mais à cause des organismes internationaux qui viennent surtout en sécurité alimentaire, a affaibli totalement. Les populations ne veulent pas encore travailler. Les gens attendent toujours, le maître en dit, ils attendent toujours que les organismes viennent faire pour eux. Alors pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole, il faut d'abord stopper l'aide humanitaire, surtout en sécurité alimentaire. Là, la population va se prendre en charge et nous serons nous-mêmes cultiver, faire tout ce qu'il faut pour notre survie. Merci beaucoup, la Radio Kapi.
Merci à vous aussi, Marcel Moulamba, d'avoir appelé de Kananga au Kasaï Central. Félix, vous savez que vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félix.
Bonjour.
On vous écoute, Félix. Votre question par rapport à ces sujets sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC.
D'accord. Moi, sinon, je n'ai pas une question, j'ai une suggestion.
Allez-y, on vous écoute.
D'accord. Je suggérerais que l'État congolais, d'abord, en premier lieu, introduise les cours en caractère agricole dans nos institutions à partir de l'humanité. Quand dès le bas âge, l'enfant étudie d'abord le cours du caractère agricole. L'enfant, dès là, l'enfant va incarner en lui le matière agricole. Savoir ce qui c'est l'agriculture, savoir ce qu'on peut faire avec l'agriculture. Si l'enfant, dès le bas âge, a incarné en lui l'esprit d'agricole, ça sera pour nous quelque chose d'avantage pour l'État.
Voilà, merci à Bernard Sakasuku d'avoir appelé de Kinshasa. On revient à notre invité, le docteur Gabriel Kombosi. Vous avez suivi tour à tour les différents auditeurs. Il y a Paulin qui a parlé du problème d'insécurité dans certains coins du pays qui, d'après lui, ne favorisent pas vraiment de booster les secteurs, l'entrepreneuriat agricole en RDC. Il a également évoqué la question de volonté politique. Il y a Marcel Moulamba, lui, il a plutôt parlé de suspendre les aides humanitaires, d'après lui. Ça rend un peu fainéant le Congolais qui aimerait bien continuer à travailler dans les secteurs agricoles. Il y a également Feli Kusuka qui est revenu sur le problème d'insécurité. Et le dernier auditeur, lui, et Feli, non seulement d'insécurité, mais il a parlé aussi si c'était possible de créer un ordre national des agriculteurs pour voir comment encadrer ces agriculteurs pour bien faire leur travail. Et puis également qui a pensé qu'en dehors des instituts techniques agricoles, s'il était possible de mettre déjà, d'enseigner déjà les notions agricoles dans à l'école déjà, peut-être aux humanités. Alors, docteur Gabriel Kombozi, comment réagissez-vous?
Oui. Bien, peut-être vous auriez dû faire bien de me rappeler chaque fois la question et que je puisse répondre. Mais je vais essayer quand même,
oui,
de répondre d'une façon globale. Mais je prends par exemple le premier qui parle de l'insécurité,
oui,
et de pouvoir, la volonté politique que nous devons avoir. Au fait, c'est vrai, l'insécurité, c'est capital. On ne sait pas travailler si on n'est pas sécurisé. C'est tout à fait normal. Et à cette question, je crois, tout ce qui est de l'insécurité ou même de la volonté politique, je ne sais pas si à mon niveau, je peux donner une solution ou une réponse concrète à cela. Les autorités qui nous suivent, je crois qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour que nous puissions arriver à avoir une sécurité qui permettrait aux paysans de bien travailler. La deuxième question, quelqu'un a posé...
Sur les aides humanitaires, oui. Sur les aides humanitaires.
Sur les aides humanitaires, où ils voulaient qu'on arrête avec les aides alimentaires. Vous savez, dans une équation, si on enlève une donnée, on change l'équation. Vous comprenez? Mais moi, je sais que aujourd'hui, si les paysans producteurs est encadré dans son milieu de vie où il y a la sécurité, il n'aura pas besoin d'avoir de l'aide, n'est-ce pas, humanitaire. Les aides humanitaires viennent après qu'il y ait insécurité quelque part et que les gens se sont déplacés de leur milieu naturel pour pouvoir s'agglomérer quelque part où ils ne peuvent pas travailler et produire et se prendre en charge. Mais s'il y a la sécurité, comme l'a dit le premier, moi je crois que tout le monde serait remis au travail. Et si on se remet au travail, chacun va produire. Et si pas produire, c'est ce que je suis. Si on produit, il faut que le paysan producteur sache qu'est-ce qu'il fait avec son produit. Aujourd'hui, ils sont réduits à l'autosuffisance. Une table de famille a difficile à produire aujourd'hui sur 2 hectares parce qu'il sait que demain, il ne pourra pas évacuer ces produits-là. Il s'est limité à 1 demi-hectare, à 1 hectare. Alors, à ce moment-là, ce soit des pertes que nous faisons, des pertes en énergie et en temps. S'il y avait cette lignée-là, donc cette, disons, comment on l'appelle, cet élan, cette division de travail, qui fait qu'au niveau du bassin de production, le paysan est bien encadré avec des semences améliorées, avec une structure fiable d'encadrement, et que après la production, cette production soit prise en compte directement avec une société ou une structure de transformation ou de transport de ces produits bruts vers le milieu de consommation, je crois qu'il y aura ce que j'ai toujours dit là, que l'émulation va s'installer au niveau du producteur. Parce qu'il sera que, aussitôt produit, soit qu'il va transformer localement, soit qu'il va évacuer parce qu'il y a une structure qui est identifiée, qui peut prendre ce produit-là pour l'aider à amener ailleurs. C'est vrai. Comme j'avais dit, l'équation, une fois que vous avez tous les éléments nécessaires, vous pouvez les résoudre. Il y a aussi un problème, les routes de desserte agricole. C'est-à-dire qu'il faut fédérer les efforts. Au même moment où les producteurs sont en train de produire, au même moment où le ministère de l'Industrie, par exemple, est en train d'insérer des petites structures de transformation de l'agroalimentaire au niveau locale, il faut qu'au même moment aussi, il y ait des responsables, des autorités qui puissent se charger de l'évacuation, donc des réfections, de réhabilitation des routes et des sites agricoles, de façon que ces produits arrivent finalement à destination, c'est-à-dire auprès du consommateur. Bon. La troisième question, c'était sur...
Bon, l'Ordre national de agriculteurs, et puis on va s'arrêter par là, oui.
Pardon, j'ai pas fini.
C'était sur l'ordre de la création d'un ordre national des agriculteurs, oui.
Tout à fait normal. Il faut qu'on se s'organise. Mais je ne crois pas que c'est seulement l'absence d'une structure organisée comme ordre qui pourra arrêter à bien travailler. Peut partir de l'existence. Quel est l'état de lieu de ce que nous avons et comment savoir comment utiliser ce que nous avons pour pouvoir aller de l'avant. Nous pouvons créer des ordres aujourd'hui, mais ces ordres vont demander des moyens pour pouvoir se mettre en exercice. Alors que si on pouvait, au niveau local, s'organiser, comme je venais de dire, à chaque étape, hein, de production jusqu'à la consommation, s'organiser comme ça, on peut aller vite que de construire d'abord l'ordre qui pourra finalement aller chercher les états de lieu par la suite. Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut insémer déjà au niveau des enfants, au niveau primaire et secondaire, cette volonté, cet amour de la terre. C'est tout à fait normal parce que nous apprenons que aujourd'hui on est en train d'amener les amis les Kulunda vers Kanyamakasese pour pouvoir faire le travail de la terre. Vous voyez? C'est parce que souvent, dans la famille, souvent dans le milieu où nous vivons, le travail de la terre, l'agriculture en soi, est relégué au dernier rang. Si un enfant n'est pas intelligent, oui. Si l'enfant n'a pas réussi à l'école, on lui dit, tu vas faire le champ, pour qu'il nous serve du langage. C'est comme si c'était un travail d'arrière-garde.
Ouais, voilà.
Non, parce qu'aujourd'hui, oui. En tout cas, je ne sais pas, parmi nous, s'il y a 100 personnes qui peuvent nous dire qu'ils ne peuvent pas manger chaque jour. Chaque jour, nous voulons bien mettre quelque chose sous la dent avant de pouvoir travailler, avant de pouvoir conduire une voiture, avant de pouvoir aller dans l'avion, avant de faire n'importe quel travail. Donc, l'agriculture qui donne cet aliment-là devrait plutôt être... Hein, le secteur le plus noble que possible.
Oui, c'est bien compris, docteur Gabriel Kombosi. L'agriculture doit être un secteur qui doit être mis au premier plan pour tout développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes chargé des missions de la société civile des commercialisations de produits agro-pastoraux et halieutiques, le marché international de Kinshasa. Merci, on espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC? Nous continuons ce sujet. Cette fois-ci, on va retrouver notre dernier invité, le professeur Jean-Claude Banganga, expert en sciences et technologies des aliments.
Le magazine Identité culturelle sur Radio Capi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Professeur Jean-Claude Banganga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes expert en sciences et technologies des aliments. Nous parlons de comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC, puisqu'on ne cesse de le dire, la RDC possède de vastes terres fertiles et d'abondantes ressources halieutiques, mais a du mal à devenir un grenier agricole important en Afrique. Et puis, il y a le problème de production agro-pastorale telle que pratiquée sur toute l'étendue du territoire national qui est souvent insuffisante pour satisfaire la demande de grandes villes. Et puis, il y a cet autre constat où les fermiers qui réussissent à produire des denrées agroalimentaires de qualité peinent à trouver des débouchés pour écouler leurs produits à cause des aliments importés vendus à bas prix dans les différents marchés des Kinshasa d'ailleurs. Alors, à votre avis, professeur Jean-Claude Banganga, comment peut-on promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC?
Merci beaucoup pour cette question. C'est une préoccupation très très importante. Mais je voudrais avant toute chose qu'on revienne aux origines de l'activité agricole. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, tout le monde veut faire l'agriculture. les enseignants, même les militaires, tout le monde veut se lancer dans l'agriculture. Et je vais vous dire quelque chose que je dis très souvent à mes collègues, même parfois, qui créent des polémiques. Je dis que l'agriculture, c'est pas une activité rentable. Et lorsque je le dis, je choque plus d'une personne. Je le dis tous les jours, je suis agronome moi-même. Vous pouvez regarder dans notre pays, il n'y a pas des agriculteurs qui soient riches. L'agriculture est devenue l'activité de pauvres. Pourquoi ? Parce que dans notre cas, dans le cas de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, c'est une agriculture qui ne peut pas permettre une meilleure création de valeur. Tant que nous n'allons pas transformer notre agriculture pour qu'elle devienne véritablement une agriculture créatrice de valeur, tous les investissements qu'on y mettra, je dis très bien, tous les investissements qu'on mettra dans l'agriculture seront perdu d'avance.
Bon, professeur Jean-Claude, aidez-nous à bien comprendre déjà à ce niveau. Quand vous parlez création des valeurs, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Je dis ceci.
Oui.
Aujourd'hui, monsieur le journaliste, comme dans tous les pays du monde, l'agriculture n'est pas une activité rentable. Au-dessus de l'agriculture, on développe l'industrie agroalimentaire. Et pas seulement l'industrie agroalimentaire, on essaye de diversifier les utilisations possibles de la production agricole pour que l'argent capté au niveau des chaînes de valeur, au niveau des industries, soit redistribué auprès des agriculteurs. Je vous jure qu'il n'y a aucune banque aujourd'hui avec la situation de la RDC. Vous pouvez avoir 1000 hectares de terrain. Vous allez dans une banque, vous faites votre business plan correctement, vous demandez à une banque de vous donner un crédit pour que vous puissiez investir dans l'agriculture. Il n'y a aucune banque qui va vous donner de l'argent. Simplement parce que tout le monde sait. Tout le monde sait, mais personne ne veut en parler. Tout le monde sait que nous avons une agriculture qui ne peut qu'appauvrir l'agriculteur. Donc il faut qu'on réfléchisse en profondeur pour transformer d'abord notre agriculture. Comment nous allons le faire ? Je sais qu'aujourd'hui, les gens vont vous dire agriculture, priorité des priorités. C'est bien. Mais quand est-ce que l'agriculture est une priorité des priorités? C'est simplement parce que l'agriculture, c'est ce qui nous donne, nous, en tant qu'État, la possibilité d'avoir une indépendance sur le plan alimentaire. C'est ce qui nous permettra de réduire nos importations et donc de capter beaucoup de devises en interne, nous permettant de diversifier notre économie. Mais avoir une agriculture rentable au stade actuel de la République démocratique du Congo, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que, avec votre chaîne, la Radio Okapi, nous avons discuté très récemment sur le service national. Et j'avais dit à l'époque que le service national devrait être le laboratoire de l'agriculture en République démocratique du Congo. Et non, une unité de production de biens. Non, ça devrait être un endroit où on réfléchit sur comment déverrouiller notre agriculture. Aujourd'hui, si vous allez dans les industries brassicoles, ils utilisent l'orge, ils utilisent le riz. Alors, posez la question, si la République démocratique du Congo profite pleinement de cette création de valeur au niveau des brasseries. Aujourd'hui, on peut tout vous dire. On peut vous dire, si vous voulez avoir une bonne bière, il faut utiliser de l'orge. Non. Le manioc contient de l'amidon. On peut utiliser le manioc dans l'industrie brassicole. On peut utiliser le manioc dans la panification. On peut utiliser le manioc pour fabriquer de la colle. On peut faire beaucoup de choses avec le manioc, qui est une spéculation qui pousse bien dans les conditions de la République démocratique du Congo. Mais il faut faire des essais agronomiques ciblés pour permettre d'améliorer les rendements, réaliser des adaptations, ce qu'on appelle des adaptations et d'afaux climatiques nécessaires pour que nous puissions avoir une agriculture qui produise en qualité et en quantité. Il faut privilégier la recherche et le développement. Et les Blancs l'ont fait, monsieur Marcel, les Blancs l'ont fait. L'orge, ce n'était pas une céréale pour la bière, non. L'orge, c'était pour le pain. Mais le pain d'orge n'était pas bon. Alors, ils ont réfléchi des années et des années pour trouver une meilleure utilisation à l'orge. Et ils sont arrivés.
Mais professeur, professeur Jean-Claude, s'il vous plaît, vous parlez de la recherche, mais c'est, il y a l'INERA, par exemple, qui est l'Institut National d'Études et de Recherche Agronomique.
Mais c'est ça justement. Vous savez, monsieur le journaliste, hein, c'est bien beau de dire on fait de la recherche. Moi, je suis professeur en agronomie et tous les ans, nous produisons des travaux de fin d'études où on vous dit qu'on a amélioré la production de la race locale, de poules, parce que on a donné de moringa, parce qu'on a fait ceci. Mais quand vous regardez l'agriculture qu'il y a en dessous de la recherche que nous faisons, ou, je voudrais dire, au-dessus de la recherche que nous faisons, c'est une agriculture qui ne suit pas ça. C'est une agriculture qui ne suit pas. Les gens vont vous dire, vous voulez améliorer les rendements du manioc. Nous avons fait des essais comparatifs de telle variété. Mais ça devrait être vu au niveau de l'agriculture. On l'a fait. Si vous regardez l'université où j'ai étudié en Europe, Jambloux, autour de Jambloux, on a développé l'agriculture, on a développé l'élevage, on a développé des industries autour du pôle de recherche qui est Jambloux. Mais si on ne le fait pas, non, ça veut dire que nos agriculteurs peuvent continuer à produire comme ils veulent. Il n'y aura pas de marché à valeur ajoutée pour nos produits. Il n'y en aura pas.
Donc, professeur,
créer ces marchés-là.
Pour ce genre,
c'est l'État. Oui. J'ai dit clairement, monsieur Marcel, c'est le gouvernement, pas seulement le gouvernement de la RDC, c'est le gouvernement qui doit s'impliquer pour que nous puissions transformer notre agriculture. J'ai appris qu'on va y mettre, je sais pas moi, 22 millions de dollars ou 22 milliards, je sais pas. Mettez 22 ou mettez 32 millions que vous voulez. Je vous jure qu'il n'y aura rien comme résultat tant que nous n'avons pas.
Professeur, ne soyez pas
notre agriculture.
Ne soyez pas aussi pessimiste, mais on comprend votre démarche, professeur. Pour vous, on peut parler de booster les secteurs. On peut pas parler de booster les secteurs agricoles du moment où il n'y aura pas l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est clair pour vous.
C'est un secteur boiteux. J'ai dit, l'industrie peut exister. L'industrie, il y a des industries, on va vous dire. Il y a l'industrie de fabrication de la bière. On fabrique du pain à Kinshasa là-bas. On fait des choses. Mais on fait ça avec quelle matière première? On ne le fait pas avec nos matières premières. On devrait fabriquer de la bière avec nos matières premières.
Mais c'est ça qu'on veut, professeur.
Et
mais
non avec l'orge des agriculteurs belges, non.
Mais justement, professeur, c'est ça l'intérêt du sujet. Comment faire en sorte que les gens investissent, s'intéressent à ces secteurs agricoles de manière qu'on puisse arriver à transformer nos produits locaux?
Le collègue qui est passé avant vous a parlé de l'accompagnement. J'adore ça. Ça dit que, on parle souvent du monde rural sans connaître le monde rural. Quand moi, je suis dans le monde rural, et j'en sais quelque chose, chez le journaliste. Parfois, on va vous parler de la mobilisation des ressources. On mobilise les ressources qu'on a. Il n'y a pas de ressources dans le monde rural congolais. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources financières, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de ressources matérielles, il n'y a rien. Les gens ne sont même pas formés. Si vous demandez à un agriculteur belge comment il fait pour avoir ses patates du début à la fin, il te décrit le procédé. Et il te dit, cette année, nous avons eu des chercheurs qui sont venus de tel endroit, qui nous ont dit que telle variété, si nous l'utilisons, nous pouvons avoir de meilleurs rendements, et nous avons commencé nos essais, nous avons... Tout ça, c'est l'accompagnement. Mais nos agriculteurs sont abandonnés. Et du coup, vous savez ce qui se fait, c'est qu'on leur donne des semences, à semences améliorées, et puis on les abandonne. Deux ans après, plus rien. Plus de rendement, plus rien. Dégénérescence totale. Et puis personne ne s'en préoccupe.
Professeur,
fois, nous revenons sur ça.
Professeur Jean-Claude,
l'agriculteur. Oui, non.
Oui. Professeur Jean-Claude Bangang, on vous garde en ligne. Nous avons déjà des auditeurs qui veulent bien intervenir. Nous avons Baron Simama qui nous appelle de Mbujimayi au Kassai Oriental. Il est également Sony Benjamin qui est à Ariwara. Merci de continuer à réagir sur la page Facebook au Capi Service. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net. Voilà, on va prendre le premier auditeur qui est en ligne, c'est Baron Simama qui nous appelle de Mbujimayi au Kassai Oriental. Bonjour Baron.
Allô Radio Okapi, c'est moi Baron Lubola. Je salue à tous les auditeurs qui m'écoutent.
Vous êtes en ligne Baron, donc allez-y, c'est quoi votre question?
Ma question est que les problèmes de l'agricole, c'est bien pour notre pays, Mais ce que j'ai constaté, que dans notre pays, beaucoup de gens aiment la politique, ils ont quitté l'agriculture. Mais ce que je demande à notre gouverneur, notre gouvernement de la République, de fournir l'effort pour impliquer les gens dans l'agriculture. Donc, ce n'est pas normal d'avoir un pays comme la RDC, un pays riche en terres fructueuses, mais qui manque d'agriculture, tout le monde sont partis en politique.
Merci Baron, depuis Bougibaï au Kassai Oriental. Pour ce que vous avez suivi Baron, c'est Mama qui lui déplore le fait que on s'intéresse de moins en moins à l'agriculture, et vous dites que c'est un secteur qui n'est pas rentable.
C'est un secteur qui n'est pas rentable, monsieur le journaliste. Et si vous voulez vous en convaincre, essayez d'investir dans l'agriculture. En tout cas, vous allez mourir pauvre.
Mais alors, professeur, qu'est-ce que l'État congolais il doit faire concrètement pour ce que de ces secteurs, oui.
Nous avons proposé à une certaine époque, on a même fait des émissions à la radio Capi pour dire comment on doit essayer de booster l'agriculture en République démocratique du Congo. Booster l'agriculture, c'est booster l'agriculteur. Parce que souvent, les gens confondent. Les gens pensent qu'on peut transformer l'agriculture sans transformer les conditions de l'agriculteur. Il faut transformer les conditions de l'agriculteur. Transformer les conditions de l'agriculteur et aider l'agriculteur à ne pas tout faire. On ne peut pas tout faire et de la meilleure façon. Nous sommes le seul pays au monde qui fait tout. Nous faisons tout. Maïs, manioc, patates, tout. On va vous dire, pommes de terre, qu'est-ce que nous ne faisons pas? Nous faisons tout et nous faisons mal tout ce que nous faisons. Hein? Il faut spécialiser les gens dans des productions, surtout des productions à valeur ajoutée, des productions qui s'adaptent au niveau des conditions et d'affaires climatiques des terrains.
Donc d'abord, professeur, formation des agriculteurs, c'est bien ça, formation des agriculteurs.
Obligatoirement, oui. Pas seulement formation. Moi, pour les agriculteurs, il faut les accompagner. Le gouvernement doit accompagner les agriculteurs. Si le gouvernement n'accompagne pas les agriculteurs, nous allons continuer à dépenser la moitié de notre budget national à acheter la nourriture. Et le mot diversification de l'économie peut rester dans nos bouches comme slogan. Nous ne saurons pas diversifier l'économie. Monsieur Marcel, si vous dépensez 50% de votre salaire à manger, 50% de votre salaire à manger, si en plus de ça, vous y mettez les habits que vous achetez, vous y mettez les pièces de rechange de vos voitures, etc., si vous n'êtes pas un homme qui va mourir pauvre, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, la première chose, il faut s'occuper des agriculteurs pour que les agriculteurs produisent. Qu'ils produisent en quantité et en qualité. Et qu'ils se spécialisent en fonction des performances de leur milieu, en fonction de performances de leur climat, en fonction de performances de leur sol, en fonction des connaissances qu'ils ont des différentes spéculations. Il y a des gens qui ont des connaissances particulières des spéculations. Et il faut qu'on s'apesantisse sur ces connaissances-là, que l'on développe ces connaissances, que l'on augmente, que l'on booste la production en quantité et en qualité. Ça permettra de réduire les importations. Deuxièmement, il faut que nous, chercheurs, nous puissions nous focaliser sur l'ajout des valeurs, sur les utilisations de nos matières premières. Il faut que nous puissions réfléchir sur toutes les utilisations possibles que nous pouvons faire avec nos matières premières. Sinon, les importations ne peuvent pas baisser. Nous pouvons produire beaucoup de manioc, mais les habitudes de consommation des gens ont changé. Les gens, ils mangent les pâtes aujourd'hui. Vous produisez le manioc, monsieur Marcel quitte le boulot, il est fatigué, il a besoin des pâtes, il n'a pas le temps de préparer le foufou, il veut manger les pâtes. Vous avez beau produire le manioc, mais Marcel va manger les pâtes. Donc, les importations vont continuer. Il faut que nous puissions réfléchir sur les utilisations de nos spéculations dans les industries créatrices des valeurs. Que nous puissions réfléchir. L'État va trouver de l'argent dans la valeur ajoutée. On va créer de l'emploi et les agriculteurs peuvent être subventionnés par l'État.
Professeur, quand vous parlez de réfléchir, vous pensez à un état de lieu pour ce qui est du secteur de l'agriculture, c'est bien cela ou quoi?
Oui, exactement, mais il faut légiférer aussi. Vous savez, il y a des choses... aujourd'hui, je peux vous jurer que les industries brassicoles qui sont ici ont les outils nécessaires pour booster des spéculations ici.
qu'on ne nous trompe pas. Ainsi, aujourd'hui, on dit aux brasseurs, écoutez, messieurs, débrouillez-vous pour que vous puissiez utiliser 20% de manioc dans vos versements pour fabriquer de la bière. Et on va fabriquer de la bière. Hein. On va fabriquer de la bière avec le manioc. Et puis, on peut accompagner les agriculteurs qui produisent le manioc pour que leur manioc réponde aux spécifications des brasseurs. Parce qu'ils vont avoir des exigences. Ils vont vous dire, oui, nous pouvons, mais il faut que le manioc soit de telle qualité, etc. Comme ça, on accompagne les gens et on crée en même temps un marché. On accompagne les gens, on crée un marché, donc on crée de l'argent. On ne peut pas, aujourd'hui, l'État ne peut pas, même avec les moyens que nous avons, le moins pour faire la recherche, l'État ne saura pas investir à 100% dans la recherche. Parfois, ça coûte trop cher. Mais les industriels peuvent le faire. Les industriels qui sont en RDC, en tout cas, les grosses boîtes, peuvent s'occuper de ces aspects-là. Hein, aujourd'hui, nous avons des essences amères, nous avons beaucoup d'essences amères, mais on utilise des houblons en brasserie. C'est vraiment du n'importe quoi en plein 21e siècle. On ne peut pas réfléchir sur des substitutions possibles de nos produits dans les industries agroalimentaires. On ne peut pas réfléchir sur ça. Donc, on va rester sur un modèle qui est calqué de la colonisation. Nous, on veut de l'indépendance seulement politique. Mais il faut de l'indépendance industrielle aussi. Il faut que nous puissions créer l'industrie africaine, que nous puissions créer l'industrie congolaise.
Professeur Jean-Claude,
professeur, de documents de philosophie industrielle. Parce que parfois, on ne se pose pas les bonnes questions. Nous ne nous posons pas les bonnes questions. Nous ne nous demandons pas comment ces gens ont réussi à développer leur secteur chez eux. Et donc, nous nous contentons des livres que nous lisons où on présente les matières premières venant de l'Occident comme les meilleures matières premières, comme des cultures industrielles. Et la patate douce qui pousse bien chez nous, c'est pas une culture qu'on peut valoriser dans l'industrie. Mais c'est quoi ça?
Professeur Jean-Claude, on n'a plus de temps, assez de temps. On va donner la parole à deux derniers auditeurs qui sont en ligne et puis on va conclure avec vous. Nous avons Bapon qui nous appelle de Kananga. Bonjour Bapon.
Oui, bonjour.
On vous écoute Bapon. Votre question par rapport à ces sujets sur comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC.
Oui, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste donner une contribution.
Oui, allez-y.
Oui, je voulais dire que le gouvernement doit avoir un plan aussi pour faire une campagne de relance agricole. Et cette campagne doit être axée beaucoup plus sur la création des activités génératrices de revenus collectives au niveau de nos communautés. Et la même campagne doit être appuyée par les humanitaires. Parce que la plus grande question aujourd'hui, c'est que beaucoup de communautés attendent de l'aide humanitaire au lieu de produire localement. Mais je veux conseiller aux humanitaires de transformer une grande partie de l'assistance humanitaire en semences. Et cela pourra aider à ce que quelqu'un peut avoir une grande partie de son assistance, soit en cash, c'est-à-dire on lui donne un peu d'argent, et aussi en semences. Il peut s'aimer parce que le cash sera une sécurité pour les semences qui ne seront pas consommées comme nourriture, mais qui vont bien sûr favoriser la progression du secteur alimentaire dans notre pays au niveau national et aussi au niveau local. Je pense que cela serait une bonne réponse pour la situation.
Voilà, merci Bapon depuis Kananga et puis Firmin Kakule qui est à Boutembo. Bonjour Firmin. Firmin, vous êtes en ligne depuis Boutembo?
Non, Firmin.
Bon, Firmin est en ligne. On vous essayez de dynamiser votre voix. Firmin, allez-y, on vous écoute.
Oui. Quand chez nous en Afrique surtout, je ne comprends pas parce que beaucoup de personnes peuvent passer que quand quelqu'un se lasse dans l'agriculture, c'est comme si il a échoué la vie. Mais lorsqu'on voit au clair, lorsqu'on se lasse dans affaires et l'agriculture, comme j'essaie aussi de m'y lasser, je constate que c'est une activité qui est pleinement rentable. Parce que on gagne plus que ce que on s'entendait. Par exemple, quelqu'un qui peut se lancer dans la production de légumes, de voir comment ça va se produire à grande quantité. Et voilà, notre pays aura besoin de personnes qui ne vont pas sous-estimer le travail pour le bien-être de la communauté. Pour que nous ayons une bonne vie, il faut que nous ayons des personnes qui vont se mettre qui vont se mettre à, qui vont prendre le risque d'être considérés comme des gens qui ont échoué leur vie, pour que nous ayons quand même un développement. Et le gouvernement doit tenir compte de tout cela, peut tenir les jeunes, peut prendre les jeunes et les accompagner dans les activités de l'agriculture, en donnant de l'enseignement et autres affaires.
Voilà, merci Firmin Kakoulé d'avoir appelé de Boutembo. On retrouve le professeur Jean-Claude Bouanganga. Professeur, comment vous réagissez à ces propos de Bapon et Bapon qui est revenu sur le gouvernement qui doit tout mettre en œuvre pour développer les secteurs d'entrepreneuriat en RDC, et puis sur la création, il a parlé de la création de coopératives ou de revenus collectifs au sein de communautés. Et puis vous avez également suivi Firmin qui lui dit plutôt c'est bon, il est en train de travailler dans ces secteurs, ça lui semble rentable. Et puis vous réagissez, puis vous concluez, professeur Jean-Claude.
D'accord, merci beaucoup ce journaliste pour l'invitation, et je voulais saluer encore une fois tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Au fait, les plans de relance, oui. Vous savez, vous êtes journaliste depuis très longtemps, je vous connais comme un très très bon journaliste, et vous savez qu'il y a eu des plans et des plans de relance en République démocratique du Congo. Si on commence à les citer, on va se fatiguer. Il y a eu beaucoup de plans de relance. Mais on relance un canard boiteux. C'est-à-dire que on est là, on veut relancer un canard. C'est comme si vous aviez un cheval et qui est fracturé, mais que vous voulez pousser à tout prix. Il faut courir. Non, le cheval ne va pas courir, il faut le soigner. Il y a eu beaucoup de plans de relance, certes, et des plans qui étaient bien rédigés, par contre. Mais on n'a pas mis le doigt là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est la faiblesse de notre agriculture. Il y a beaucoup de verrous, et j'en ai parlé plusieurs fois à la radio Capi, et partout où j'ai eu l'occasion, j'ai dit, transformons notre agriculture, utilisons les compétences des industriels qui sont sur place, pour que nous puissions ensemble transformer l'agriculture. Que nous puissions quitter la chikwang pour le pain de manioc, que nous puissions quitter les cacahuètes pour des biscuits avec nos cacahuètes, que nous puissions transformer tout ça, que nous puissions ajouter de la valeur à nos productions et que nous puissions répondre aux besoins de la population. Lorsque notre ami dit que c'est rentable, je ne suis pas d'accord. Au fait, la rentabilité, il peut la mesurer avec les légumes qu'il vend en une saison, il trouve que c'est rentable. Non, la rentabilité, c'est pas ça. Il faut voir aussi sur le long terme. J'ai dit une fois que l'agriculture est une activité très risquée. Surtout notre agriculture qui dépend des aléas. Et on vous le dit tout le temps. On vous dit que vous avez une agriculture qui n'est pas résiliente.
Voilà, professeur. Qui n'est pas résiliente. Professeur Jean-Claude Bouanganga, on va s'arrêter par là. Les temps partis à ce magazine touchent à son terme. Merci, professeur Jean-Claude Bouanganga, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes expert en sciences et technologies des aliments. Merci, on espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, fin de ce magazine Okapi Service de ce jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Claude Siala qui est à la mise en onde d'Atati Mapuku qui l'a coordonné, réalisé sous la supervision de Jean-Marc Matraki. Au micro, c'était Marcel Ngomombala. J'espère vous retrouver le lundi prochain dans un nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir à tous.